Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Irony Armanongo avec vous dans ce journal. Nous sommes le mardi 27 août 2019 et voici le sommaire. Au Cameroun, un report du procès de sept militaires accusés d'avoir exécuté deux femmes et deux enfants dans l'extrême nord du pays. Au Tchad, plus de 200 rebelles sont condamnés à de 10 à 20 ans de prison. L'ambassadeur britannique en Zambie a des mots très durs contre la corruption. Un sommet Japon-Afrique se tient à partir de demain à Yokohama, dans le sud-ouest de Tokyo. L'Iran demande aux États-Unis de lever ses sanctions comme premier geste vers un dialogue. Le coût des études supérieures aux États-Unis pousse beaucoup d'étudiants à aller s'inscrire dans d'autres pays. Vous en saurez davantage dans notre page magazine. Ne ratez pas les tours d'horizon de l'actualité économique et sportive, mais avant tout, le journal. Bonjour et bienvenue à tous. Le procès de sept militaires camerounais accusés d'être impliqués dans l'exécution sommaire de deux femmes et de leurs enfants dans le nord du pays a été renvoyé à mi-septembre. Le point avec Nathalie Barge.
Le tribunal militaire de Yaoundé a annoncé le renvoi d'office au 16 septembre de toutes les affaires qui devaient être jugées ce mardi pour cause d'indisponibilité de la présidente. En juillet 2018, une vidéo montrant des hommes en uniforme de l'armée camerounaise exécutant deux jeunes femmes et leurs deux enfants avait provoqué l'indignation. Le gouvernement avait alors annoncé avoir ouvert une enquête, tout en qualifiant la vidéo de fake news. Le mois suivant, il avait annoncé l'arrestation de sept militaires soupçonnés d'être à l'origine des faits qui se seraient produits en 2015, selon Amnesty International. Ces militaires, dont un capitaine de l'armée, doivent comparaître pour complicité d'assassinat, violation de consignes et complicité des dix faits, a indiqué le ministère de la Défense.
Toujours au Cameroun, au moins trois personnes ont péri et plusieurs dizaines ont disparu dans le naufrage d'un navire dans la nuit de dimanche à lundi, selon la radio d'État et une source sécuritaire locale. Au Libéria, cinq anciens responsables de la Banque centrale, dont un fils de l'ex-présidente Hélène Johnson Sirleaf, ont plaidé non coupables des accusations de blanchiment, complot criminel et sabotage économique portés contre eux dans une retentissante affaire liée à l'entrée de billets dans le pays entre 2016 et 2018. Il est reproché à ces cinq ex-dirigeants de la Banque centrale d'avoir fait imprimer sans autorisation un excédent de billets pour un montant de plus de 16 millions de dollars américains. Ils avaient été inculpés en mars, puis arrêtés avant d'être libérés sous caution. Au Tchad, plus de 240 rebelles responsables ou membres de la colonne stoppée début février par des frappes françaises dans le nord-est ont été condamnés à des peines allant de 10 à 20 ans de prison, a annoncé le ministre de la Justice, Dimet Arabi. Selon lui, la Cour criminelle spéciale a également condamné à la perpétuité par coutumance une dizaine de responsables se trouvant en dehors du Tchad, dont leur chef Timane Erdimé. En Centrafrique, le chef de l'un des principaux groupes armés a démissionné du poste de conseiller militaire auprès du gouvernement. Mahamat Al-Khatim a annoncé sa démission dans un communiqué. Officiellement intégré au gouvernement le 6 mars, comme d'autres représentants des 14 groupes armés qui contrôlent encore 70% du territoire centrafricain, M. Al-Khatim a fustigé dans le communiqué des fonctions fictives et non effectives. L'ambassadeur britannique en Zambie dénonce la corruption du gouvernement du président Edgar Lungu. Londres a suspendu depuis l'an dernier son aide bilatérale à Lusaka. Le point avec Abdourahman Dia.
La corruption tue aussi sûrement que n'importe quelle arme à feu, a affirmé le diplomate en fin de mission à Lusaka, Fergus Cochrane Dyett, lors d'un discours. Elle prive les Zambiens des ressources publiques vitales, des forêts qui protègent leurs réserves d'eau, de sa faune sauvage renommée et des emplois que les entreprises étrangères pourraient lui offrir, a poursuivi M. Cochrane Dyett. La Zambie a été le théâtre ces dernières années de plusieurs affaires retentissantes de détournement de fonds publics qui ont éclaboussé le régime. La dernière en date implique une ex-ministre inculpée pour des malversations lorsqu'elle occupait le portefeuille des services sociaux. Ce dernier a poussé le Royaume-Uni à geler son aide à la Zambie, évaluée à 52 millions de dollars pour l'année budgétaire 2018-2019. L'opposition accuse régulièrement le président Edgar Lungu de corruption et de dérive autoritaire depuis sa réélection en 2016. L'ambassadeur britannique a également exhorté le régime à déclarer l'état d'urgence en raison de la famine qui menace 2,5 millions de Zambiens. Le gouvernement a jusque-là refusé de le faire.
Au Soudan, au moins 37 personnes ont été tuées et environ 200 blessées dans les heurts qui entre deux tribus soudanaises dans l'état de la mer Rouge. Dans l'est du pays, ont indiqué hier des médecins proches du mouvement de contestation. L'élément déclencheur n'est jusque-là pas encore connu. 5 migrants, dont une femme et un enfant marocain, ont péri et 20 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. Dernier drame en date en mer Méditerranée selon la marine libyenne. Le porte-parole de la marine, Ayoub Kassem, a indiqué que 65 autres migrants, des Soudanais pour la plupart, avaient été secourus avec l'aide de pêcheurs au large de la ville de Koms, à 120 km à l'est de la capitale libyenne. Le Japon reçoit cette semaine des dizaines de dirigeants d'Afrique pour tenter de renforcer sa présence sur le continent riche en ressources naturelles et en pleine croissance. Le point avec Michel Joseph.
Le pays du soleil levant organise son sommet Afrique-Japon de mercredi à vendredi à Yokohama, au sud-ouest de Tokyo. Plusieurs dirigeants africains, dont le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le sud-africain Cyril Ramaphosa ou encore le congolais Félix Tshisekedi y sont attendus. Plus de 150 entreprises japonaises tiendront une exposition en marge des rencontres officielles. Tokyo devrait entre autres annoncer un prêt de 3,4 milliards d'euros pour financer des énergies renouvelables, dont l'extension d'équipements éoliens en Égypte et des unités géothermiques au Kenya. Le stock d'investissement direct japonais en Afrique s'élevait à 7,8 milliards de dollars fin 2017 contre 43 milliards pour la Chine. Les exportations nippones vers l'Afrique ont chuté de plus de 27% depuis 2008, tandis que celles de la Chine ont fait un bond de près de 50%. 60 milliards de dollars de financement ont été promis au cours du dernier sommet Chine-Afrique, soit le double des engagements de la dernière TICAD en 2016. La Chine va emboîter le pas avec sa propre conférence.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré aujourd'hui qu'il était prêt à discuter d'une aide du G7 pour lutter contre les incendies en Amazonie si le chef de l'État français Emmanuel Macron retirait ses insultes. D'abord, M. Macron doit retirer les insultes qu'il a proférées contre ma personne, a déclaré le président brésilien qui évoque les accusations du président français selon lesquelles il avait menti sur ses engagements environnementaux. Avant de discuter, d'accepter que ce soit de la France, avant de discuter, pardon, et d'accepter quoi que ce soit de la France, M. Macron doit retirer ses paroles et à partir de là, nous pourrons parler, a déclaré le président brésilien. Lundi soir, Brasilia a rejeté sèchement l'aide de 20 millions de dollars proposée par les pays du G7 pour combattre les incendies en Amazonie en conseillant au président français de s'occuper de sa maison et de ses colonies. Le président Hassan Rouhani a appelé dans le même temps les États-Unis à faire le premier pas en levant toutes les sanctions imposées à l'Iran sur le dossier nucléaire au lendemain de propos de Donald Trump jugeant possible une rencontre avec son homologue iranien. Le point avec Eki Abiyadou.
Le président Hassan Rouhani a à son tour posé des conditions. La première étape est de retirer toutes les sanctions illégales, injustes et erronées contre la nation iranienne, a-t-il déclaré ce mardi dans un discours retransmis par la télévision nationale. La clé d'un changement positif est entre les mains de Washington, car l'Iran a déjà exclu de faire ce qui inquiète le plus les États-Unis, la fabrication d'une bombe atomique, a ajouté le président iranien. En tournée en Asie, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s'est montré plus sceptique, notant avoir décrit, lors de sa visite surprise au sommet du G7 à Biarritz, une telle rencontre comme inimaginable tant que Washington ne réintégrait pas l'accord de 2015. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont exacerbées après le retrait unilatéral américain de cet accord, suivi du rétablissement par Washington de fortes sanctions contre Téhéran.
Donald Trump a fait l'éloge du premier ministre italien sortant Giuseppe Conte, exprimant en pleine tractation politique à Rome l'espoir qu'il conserve son poste. Toujours Irénée Armanongba, en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Autre volet de ce journal, c'est l'actualité économique en Afrique, la Minute Éco, et c'est avec Nanit Talani.
Le Nigeria va faire appel du jugement d'un tribunal londonien autorisant l'entreprise PNID à saisir 9 milliards de dollars sur les actifs du pays, soit un cinquième de ses réserves de change. On ignore quand le gouvernement nigérian va déposer son appel, mais en attendant, il a ordonné une enquête sur le contrat gazier à l'origine du contentieux. Le Nigeria et PNID avaient signé un accord pour la construction d'une usine de traitement du gaz. L'accord avait échoué avant même le début des travaux. PNID a entrepris de poursuivre le Nigeria, l'accusant d'avoir violé l'accord en ne fournissant ni le gaz ni les gazoducs promis. Le gouvernement mozambicain a officiellement lancé une offre d'échange sur l'Eurobond 2023. Il cherche à obtenir l'accord des créanciers obligataires pour une restructuration pour alléger la pression sur ses finances publiques. Maputo a indiqué que le règlement de la restructuration ne devrait intervenir que le 30 septembre si l'offre est approuvée par au moins 75% des détenteurs d'obligations. Pour terminer, la Mutuelle agricole marocaine d'assurance veut lancer un fonds de 52,2 millions de dollars dans le secteur agroalimentaire. Le groupe mutualiste veut appuyer en capital des entreprises de taille moyenne par le biais d'investissements. Le secteur agricole est le premier pourvoyeur d'emplois au Maroc, avec une contribution de 38% des emplois au niveau national et contribue pour près de 13% au PIB.
Merci Nani Talani. À présent, passons à la page sport avec Bakassi Koura.
Oui, bonsoir Irénée, bonsoir à tous.
Les 12e Jeux africains se poursuivent à Rabat au Maroc.
Oui, la journée de ce mardi a été marquée par la finale du 100 mètres dames. L'Ivoirienne José-Marie Talou a remporté la médaille d'or en 11 secondes 09. Le point tout de suite avec Kader Traoré à Rabat.
L'Ivoirienne José-Marie Talou a honoré son rang de championne d'Afrique en course de vitesse de 100 mètres. Elle s'est imposée une fois de plus à Rabat en remportant la médaille d'or grâce à un temps de 11 secondes 9. Elle conserve du même coup ce titre conquis il y a 4 ans au Congo-Brazzaville. Pour ce qui est du chrono, elle n'en a que.
Je suis contente déjà de conserver mon titre encore de championne des Jeux africains. C'est un plaisir pour moi de représenter mon pays. Donc voilà, il fallait conserver son titre, c'est ce que j'ai fait. Je m'en fous du temps. Tout comme ça, le plus important encore, il y a les championnats du monde qui arrivent. Donc c'est là qu'on verra les chronos encore. Mais je suis contente. Je pense qu'il y a quelque chose qui a failli au départ. Je pense que j'ai failli tomber et tout. Mais après, j'ai quand même réussi à maintenir le rythme et me poser. Donc, c'est ça qui est le plus important.
Kader Traoré à Rabat pour VOA Afrique.
Alors, Bakassi, on connaît désormais la liste des écureuils pour la journée FIFA en septembre.
Oui, Irénée, ça c'est chez toi au Bénin. Ce sera la première sortie des écureuils, donc, après la bonne prestation de l'équipe à la CAN 2019. Pour le compte de la journée FIFA du mois de septembre, la sélection béninoise affronte la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Ces matchs joueront respectivement les 6 et 9 septembre prochains en France. On note les absences de Moïse Adileou et Emmanuel Imourou, qui sont actuellement sans club. Fabien Farnol également n'a pas été retenu. Rudy Gestede et Cédric Untondji font leur grand retour après avoir raté la CAN 2019. Le technicien français a fait appel à des joueurs locaux, à l'instar du défenseur de Buffalo de Borgou, Nabil Yarou.
Alors, un nouveau sélectionneur pour la Tunisie?
Oui, l'ancien entraîneur des clubs Mondaire, Kébera, a été nommé comme nouveau sélectionneur de la Tunisie en remplacement du français Alain Giresse. Selon Africa Sport, le nouveau sélectionneur natif de Bizerte dans le nord du pays a signé un contrat de 3 ans et il sera présenté ainsi que son staff ce jeudi.
Et un Algérien prend la tête de la sélection du Botswana.
Oui, c'est Abdel Amrouche. Il a été officiellement présenté ce mardi par la fédération botswanaise.
En Ligue 1, blessure de l'Ivoirien Jean-Philippe Gbame.
Oui, il sera indisponible pour au moins deux semaines. Le milieu de 23 ans a signé cet été un contrat de 5 ans avec Everton.
Merci Bakassi Koura, c'était la page sport. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Ce mardi, une partie du marché de Boaké a pris feu, créant désolation et tristesse chez les commerçants. Aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais les pertes en matériaux sont énormes. Le point avec Aïcha Diarra.
Ça a commencé à partir de 2h, mais mon grand frère m'appelle à 3h. Quand on est venu, les sapeurs-pompiers déjà sur le lieu. Donc moi-même, mon oncle, son magasin est dedans, a pris feu. Alhamdulillah, on a pu sortir quelques marchandises, mais tout n'est pas sorti. Ça se voit déjà que beaucoup de gens ont perdu leurs marchandises et ça fait très mal.
Le marché d'oignons, une partie du marché des sacs et le marché de poissons secs sont partis en fumée. Les pompiers ont été impuissants parce que les bouches d'incendie ont été obstruées par les magasins construits sur les installations. Chose incomprise par la population qui déplore le manque d'eau. Un incendie dont les origines restent inconnues jusque-là. Sangaré Adam.
On ne sait même pas c'est quoi qui a la cause. Et puis le coin qui a pris le feu même là. Genre, il n'y a pas de branchement bizarre ni rien. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas tolérer. Il y a un premier marché qui a été brûlé. Depuis moi, je ne suis pas encore née. Ils n'ont pas mis ça en place. Et il y a un deuxième marché encore qui vient de se brûler ce matin. Vraiment, on a mal au cœur. La population de Boaké, on a mal au cœur.
Tous aujourd'hui réclament plus que jamais la reconstruction du grand marché. Yaya Sissoko.
Vraiment, c'est que nous demandons au président que vraiment nous avons un problème de marché. Que nous lui demandons pardon quoi, pour qu'il n'arrive pas nous venir en aide, sinon on ne sait plus quoi faire.
Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
En RDC, c'est la dernière semaine des vacances avant la rentrée scolaire lundi prochain. À Goma, différentes associations caritatives font des dons des kits scolaires aux enfants orphelins tout en sensibilisant sur les mesures de prévention contre Ebola, tandis que les parents appellent le gouvernement à l'effectivité de la gratuité de l'éducation de base promis par le président Félix Tshisekedi. De Goma, le reportail de Charlie Kasereka, notre correspondant.
À Goma, nombreux sont les parents qui n'ont pas encore tout ce qu'il faut pour faire une bonne rentrée scolaire pour leurs enfants. Les écoles reprennent ce lundi 2 septembre. Comme beaucoup de parents, Kambale Hilaire, la cinquantaine, au chômage depuis plusieurs années et perd d'une dizaine d'enfants.
Si je scolarise 12 enfants par an, ce n'est pas si moins. Je ne saurais pas acheter les biens pour tous ces enfants. Et il y a beaucoup de parents qui sont comme moi, qui n'ont pas de travail.
Face à ces difficultés, les associations caritatives viennent à la rescousse avec un dos d'équipe scolaire composé de cahiers et de stylos. C'est le cas de l'association des mamans pour l'autoprise en charge et le développement, Améa Dansigle, qui vient d'assister plus de 400 enfants en âge scolaire. Joséphine Saouda Tekarongia est la fondatrice de cette association.
J'ai une compassion envers les vulnérables. Je vais recommander à tous les partenaires locaux, nationaux et internationaux de nous appuyer. Parce qu'on voulait faire plus, mais on est limité, au moins financier.
Le gouvernement congolais promet la suppression des frais de fonctionnement des écoles qui étaient à la charge des parents. Cette mesure est jugée incomplète par la députée provinciale Adèle Bazizane, qui est aussi une ex-ministre de l'éducation ici au Nord Kivu.
Actuellement, avec le système éducatif congolais, ce sont les parents qui sont les premiers partenaires du système éducatif congolais. Ayant cette petite expérience, je ne voudrais pas que ce soit vraiment du chantage. Donc nous voudrions voir le gouvernement accompagner cette gratuité jusqu'à la suppression effective de frais, de primes qui sont payées dans les écoles, parce que cette prime-là qui pèse sur les dos des parents. Ça ne sert à rien que nous puissions arriver à tromper l'opinion en disant qu'il y aura effectivité en supprimant les 1000 francs des bulletins, 1500 francs d'identification informatisée, 200 francs des sonates. Nous osons croire qu'il y aura effectivité.
Pour cette édition 2019-2020, le contexte est un peu différent avec la maladie à virus Ebola déclarée depuis plus d'une année et qui touche trois provinces de l'Est et de la RDC, à savoir le Nord Kivu, le Sud Kivu et la province de l'Ituri. Les responsables de l'éducation en province promettent déjà le les mesures de prévention dans les écoles. Emmanuel Gachamba, inspecteur de l'éducation pour la formation technique au Nord Kivu.
L'école, c'est un endroit à forte fréquentation. Maintenant, les premières mesures prises, c'est la sensibilisation des élèves à ne pas se comporter comme avant, à ne pas vraiment s'embrasser, à ne pas se toucher à la main. Toutes les dispositions sont prises pour que chaque chef d'établissement, du primaire, de la maternelle et même du secondaire, puisse avoir un dispositif pour le lavage des mains.
Selon les données de l'inspection de l'éducation, la ville de Goma attend environ 14 000 jeunes écoliers et écolières qui vont pour la première fois à l'école. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, 7 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi a finalement son premier gouvernement. L'équipe est composée de 66 membres, dont 5 vice-premiers ministres et 10 ministres d'État. Dans ce gouvernement de coalition, le FCC de l'ex-président Joseph Kabila détient 2/3 des portefeuilles grâce à sa majorité écrasante au Parlement. La composition du gouvernement, la taille de l'équipe, les chances de réussite de la coalition FCC Cash et ses priorités. Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Tchad, les éléphants sont menacés quotidiennement par les braconniers. Rien qu'en ce mois d'août, 9 éléphants sont tués dans la réserve de la faune de Binder, département du lac Léré au sud du pays. 6 présumés ont été appréhendés par les éléments de la lutte anti-braconnage et remis à la justice tchadienne. André Code Majinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Il a fallu une lutte âpre pour que ce présumé braconnier tombe dans les mailles du service forestier. Il y a à peine 3 semaines, le 6 août, une patrouille des éléments de la lutte anti-braconnage a eu un accrochage avec ce présumé braconnier dans la zone de Binder. Ils se sont retranchés dans la forêt difficile d'accès, laissant derrière eux des armes de guerre et quelques matériels, comme en témoigne le colonel Hamid Hissène, commandant de la garde forestière et faunique.
L'opération a été vraiment minutieuse. Il n'y a aucune mort, il n'y a aucune blessée. On a préparé nos gens mentalement, psychologiquement et on a eu encore le coup de main de la population aussi de là-bas, et ce qui a fait que l'opération réussisse à 100%. Et ce trafic, il faut que ça s'arrête.
Les éléments de la lutte contre le braconnage ont changé de stratégie. Ils se sont déguisés en civil pour mettre la main sur 6 personnes, dont 3 braconniers présumés et 3 complices. Ils sont accusés d'avoir tué 9 éléphants. Pour preuve, ils possèdent 17 défenses d'éléphants, 2 armes de pointe, 4 chargeurs et 93 munitions. Lieutenant Doba Viper a mené l'opération.
On a déguisé une personne en commerçant par rapport à leur numéro de téléphone qu'on a trouvé, qui les a appelé que vraiment j'ai besoin de défense. Voilà, ils sont venus en Yamena. Nous, on a envoyé de l'argent pour qu'ils montent. Ils ont monté le bus devant nous. Alors, nous, ici, au niveau du commandement, on a monté le bus. On s'est déguisé en civil avec les matériels et tout. On est descendu dans la ville de Pala. On a mené nos investigations. On est allé sur le champ, là où ils travaillent. Comme ils étaient convaincus que le gars qui était avec nous était le commerçant, ils ont transporté toutes leurs défenses, amenées dans la ville de Pala. On les a surpris dans la maison et on les a arrêtés. Ils viennent en chevaux dans la zone de Binder. Ils envoient quelqu'un dans la forêt. Ils détectent là où les éléphants pâturent et après ils viennent et ils tirent.
Pour le ministre en charge de l'environnement, Brahim Mohamed Jamaladine, l'application de la loi pour ce cas d'espèce doit être de rigueur. Le procureur de la République, Youssouf Tom, a promis que ces présumés braconniers seront jugés conformément à la loi 14 de 2008 portant régime des forêts et de la faune et des ressources halieutiques qui protège et réprime tout acte portant atteinte à l'environnement.
Nous leur ferons subir la rigueur de la loi pour que tous ceux qui tenteront d'emprunter cette voie, ils vont être dissuadés et surtout on s'est rendu compte que les activités de braconnage contribuent à financer le terrorisme. Ils vendent ça par kilo et qu'au Tchad, 1 kilo leur est acheté à 35 000 francs. Les grands patrons qui s'approprient ces défenses vont les vendre au prix peut-être le plus offrant. Ils n'ont pas révélé l'identité de celui qui achète ces défenses pour aller les vendre à l'extérieur. Mais la suite de l'enquête, nous les déterminerons.
En moins de 2 ans, une 30aine d'éléphants qui sont des espèces protégées sont tués par les braconniers au Tchad. André Kodumadingar Ndjamena, VOA Afrique,
Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Pendant la dernière décennie, le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans les collèges et universités américaines a régulièrement augmenté, mais à cause des frais de scolarité très élevés aux États-Unis et des problèmes de visa et autres, de plus en plus les étudiants étrangers se tournent vers le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Europe et la Chine. Dans ces pays, les études sont moins chères et plus pratiques. Le reportage de Sarah Madnim, raconté par Lionel Gaïma, nous en dit plus.
Les coûts sont très élevés pour étudier dans les universités américaines. Fatah Hao, vice-président de Campus Life à American University à Washington, D.C.
It is no secret that compared...
Ce n'est un secret pour personne. Comparé à d'autres pays, le coût de l'enseignement supérieur aux États-Unis est beaucoup plus élevé.
Les frais de scolarité ne sont pas le seul facteur dissuasif. Une étude de l'Institut international pour l'éducation met aussi en évidence la perception de la criminalité aux États-Unis et la rhétorique sur l'immigration. Bakhtiar Romadoni Arsral, étudiant indonésien.
En fait, c'est devenu ma principale préoccupation. Je suis d'origine indonésienne, asiatique et musulmane. Mon apparence est différente. Les gens voient que je viens d'un autre pays. C'est une situation difficile pour moi, même si au début je pensais que ce n'était pas un problème, croyant que l'Amérique était ouverte.
D'autres pays comme le Canada sont conçus comme plus accueillants et cherchent à attirer des étudiants de Chine, de l'Inde, des Philippines, du Vietnam et du Pakistan en leur accordant des visas qui sont traités en 3 semaines. Kirsten Hillman, ambassadrice adjointe du Canada aux États-Unis.
D'après nos statistiques, nous avons constaté que ces pays sont les plus intéressés à envoyer des étudiants au Canada.
Et ceux qui ont étudié au Canada trouvent que leur immigration a porté des fruits. Masroor Khan, ancien étudiant de l'Université de Manitoba au Canada.
Après mon diplôme de premier cycle, j'ai obtenu un permis de travail de 3 ans, également appelé permis de travail du 3e cycle, et j'ai postulé pour un emploi. J'ai été recruté dans un cabinet comptable, j'ai travaillé pendant 1 an à plein temps, ce qui m'a permis de faire une demande de carte de résident permanent.
La Nouvelle-Zélande aussi, avec 130 000 étudiants étrangers, renforce sa stratégie de recrutement. Julian Ashby.
La grande majorité, environ 50%, vient de Chine et d'Inde. Nous avons aussi un grand intérêt pour les étudiants, les meilleurs venant d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est.
Malgré cette concurrence, certains experts estiment que les États-Unis peuvent redevenir le premier choix pour les étudiants étrangers. Marie-Catherine Chase, directrice de la communication pour les programmes d'échange d'étudiants.
L'un des aspects fantastiques du paysage mondial de l'enseignement supérieur est que tout pays peut devenir une destination de choix suivant les facteurs appropriés. Ainsi, les États-Unis, par exemple, pourraient redevenir une destination de choix et dominer pendant un certain temps.
Elle ajoute que des mesures comme le renforcement de la convivialité par le biais de cours d'anglais, le développement de réseaux et les organisations étudiantines aident aussi à attirer plus d'étudiants étrangers.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
À partir du mois de septembre, VOA Afrique vous présentera Learning English, un programme entièrement en anglais pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. La lecture posée, les phrases et le vocabulaire ont été spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. À très bientôt, tous les soirs à 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Voilà, nous voilà au terme de cette édition qui vous a été présentée par Irune Hermanoubo, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Zubert El Taïb. C'est la fin, merci de nous avoir suivis. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.